C'est les deux secondes déjà.
Il y a plusieurs années, et je suis heureux d'ailleurs que la saison recommence à nouveau, j'ai été invité dans un mariage. Ça arrive quelques fois. Et comme ça arrive parfois dans les mariages, ce jour-là, je me suis retrouvé à côté d'une jeune femme que je ne connaissais pas. Voilà. Et on s'est mis du coup à échanger un petit peu, cordialement, tout ça. Et assez rapidement, la conversation a tourné autour de la foi chrétienne, parce qu'elle m'a demandé ce que je faisais. Donc ça facilite l'introduction en matière, disons. À ce moment-là, j'étais étudiant en faculté de théologie. Et puis, elle a commencé à me poser quelques questions. Elle n'était pas croyante elle-même. Et j'essayais de répondre un peu comme je pouvais, quoi. Et ça se passait globalement bien. Les échanges étaient cordiaux. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à lui parler de relations personnelles avec Jésus. Et alors c'était en Espagne, hein, il y a un tempérament un peu voilà, méditerranéen, quoi. Elle a bondi de sa chaise et elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi ? Enfin, une relation personnelle avec Jésus, ça ne veut rien dire du tout, quoi. Ça ne veut rien dire. » J'ai vu dans ses yeux que je passais du statut de type lambda à fou allié, quoi. Le genre qui se prend pour Napoléon, qui entend des voix, etc. Et pourtant, la Bible nous parle bien d'une relation personnelle avec Jésus, et en fait, elle en fait même une condition au salut, donc c'est pas rien. En Matthieu 7, versets 22-23, c'est Jésus qui parle, et il dit « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus ». Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » On parle de gens qui ont chassé les démons, qui ont prophétisé au nom de Jésus. Et il leur dit, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une relation personnelle avec Jésus? Et puis, question annexe, comment est-ce qu'on peut vivre une telle relation? D'où est-ce qu'elle naît, cette relation? On va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. Je lirai les versets 15 à 26, mais avant, comme à mon habitude, je vais prier. Jean chapitre 14, les versets 15 à 26. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous voulons l'accueillir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole vivante, une parole qui donne vie, une parole qui nous mène sur les sentiers de la vie, qui nous mène à la suite de ton Fils Jésus, qui est lui-même la parole incarnée. Seigneur, rends-nous réceptifs, fais tomber tout ce qui en nous s'oppose, tout ce qui en nous s'érige en barrière, à l'écoute de cette parole. Nous voulons être attentifs à ce que tu as à nous dire et voilà, nous sommes disposés à ce que tu nous travailles de l'intérieur par cette parole. Seigneur, il y a voilà, les commentaires qui auront lieu après, Seigneur, également, mais je te prie déjà qu'à la lecture de cette parole, tu viennes parler au cœur de chacun. Parce que c'est ta parole qui est vivante. Au nom de Jésus. Amen. Jean 14, les versets 15 à 26. Si vous m'aimez, dit Jésus à ses disciples, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. » Amen. Ces paroles ne sont pas n'importe quelle parole. Alors, il n'y a pas de distinction d'importance dans les paroles de la Bible, bien sûr, mais là, il les prononce dans un moment qui est particulier. Il les prononce lors du repas de la Pâque, c'est-à-dire lors de son dernier repas. Jésus s'adresse à ses disciples et on est vraiment aux extrémités parce qu'au moment où il les prononce, Judas est déjà sorti pour aller le livrer aux autorités qui vont le mettre à mort. Et Jésus le sait. Et il veut répondre là, je crois, à une inquiétude qui ne va pas tarder à plonger ses disciples dans l'angoisse la plus profonde. Jésus va mourir à la croix. Il leur a déjà dit à quelques reprises, en tout cas il les a prévenus, que ça allait se terminer de cette manière-là. Et ils commencent, je crois, à s'inquiéter un petit peu. Qu'est-ce qu'ils vont devenir une fois qu'il ne sera plus là ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir quand il ne sera plus auprès d'eux physiquement, quand ils ne pourront plus, comme nous du reste, ni le voir, ni le toucher, ni l'entendre ? Comment cette grande aventure du salut du monde va-t-elle pouvoir se poursuivre ? Et Jésus commence par leur dire « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Je ne sais pas vous, mais à première lecture, si on lit ça un petit peu rapidement, il me semble que ça peut sembler étrange. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ça pourrait presque ressembler à une espèce de chantage affectif, quoi. Si vraiment tu m'aimes, bah, tu dois m'obéir, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une relation entre l'amour qu'on a pour Jésus, la foi qu'on place en lui et l'obéissance à sa parole. Il y a un verset que je trouve très éloquent à ce sujet. C'est Jean 3, verset 36. Malheureusement, si vous lisez ce verset dans vos Bibles, très probablement vous lirez quelque chose comme « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. » Alors, c'est exact, évidemment, hein, c'est juste. Beaucoup de traducteurs, en fait, ont choisi cette formulation pour garder un parallélisme dans les deux propositions, hein, « celui qui croit et celui qui ne croit pas ». Celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas ne verra pas la vie. Mais en vrai, le texte grec, dans ce verset-là, dit quelque chose, je crois, de plus profond que ça. Très exactement, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie. » C'est ce que dit ce verset littéralement. Alors, mention spéciale à la traduction de John Nelson Darby, qui, au-delà de nous avoir fourni une traduction absolument imbuvable de la Bible, est quand même l'un des rares à avoir retranscrit ici cette richesse du texte original. Et je trouve que c'est important parce que, même si ça veut dire la même chose au fond, en tout cas ce que nous dit ce verset, c'est que la foi et l'obéissance marchent effectivement main dans la main. Pour autant, ils ne sont pas synonymes. Et Jésus n'est pas en train de dire ici que l'obéissance, c'est une preuve d'amour. Ça, on sait que ça ne marche pas. On le sait parce que les champions de l'obéissance à la parole de Dieu, c'était les pharisiens, et à de très rares exceptions près, ils n'aimaient pas Jésus. On le sait parce que ces gens qui prophétisaient dans le passage de Matthieu 7 que j'ai lu tout à l'heure, ces gens qui chassaient des démons, qui faisaient des miracles au nom de Jésus, ils étaient dans l'obéissance. Ils faisaient exactement ce que Jésus a demandé de faire à ses disciples. Ils étaient dans l'obéissance Et pourtant, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que si celui qui aime Jésus obéit effectivement à ses commandements, et on verra pourquoi ensuite, l'obéissance aux commandements, elle, par contre, ne signifie pas forcément qu'on aime Jésus. On peut être dans l'obéissance parce qu'on pense qu'en étant dans l'obéissance, on va gagner la faveur de Dieu. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction commerciale, au mieux, voire un chantage affectif, dans le genre de celui dont je parlais tout à l'heure, « Puisque je t'obéis, Seigneur, alors je mérite la bénédiction. » On peut aussi être dans l'obéissance parce qu'on croit que c'est ça le plus important, obéir à un Dieu sévère, prompt à châtier celui qui ne marche pas droit, et là encore, ça n'est pas de l'amour, là c'est du légalisme. On obéit comme un bon petit soldat, mais pas comme un fils qui a compris, qui a intégré que la voie proposée par son père qui l'aime, c'est une bonne voie, c'est une voie bonne à suivre et qu'on suit donc avec délice. Ce qui est mis en avant dans notre texte, c'est tout autre chose, quelque chose qui est porté non seulement par l'ensemble du texte qu'on a lu, mais même par l'ensemble de ce repas de la Pâque que Jésus vit avec ses disciples et qui commence au chapitre 13 avec ces paroles. Avant la fête de la Pâque, Jean 13, 1, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et pour manifester cet amour, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il va prendre la position de l'esclave, du serviteur, qui se trouve tout en bas de la chaîne alimentaire, tout en bas de la structure hiérarchique. Lui, le maître, il se met dans la position du plus humble des serviteurs. Et il dit à ses disciples, « Faites de même, faites la même chose. » Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors, quand il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements », ça n'est pas un « si » conditionnel. En fait, il tient pour acquis que ses disciples l'aiment. C'est un « si » de conséquence. Jésus s'adresse là, il faut se le rappeler, à des disciples qui vont être plongés dans l'angoisse bientôt. Jésus va mourir, ils vont se retrouver seuls, leur maître ne sera plus là. Mais Jésus leur dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Donc ne soyez pas inquiets, tout va bien se passer. Vous n'aurez plus besoin de moi physiquement à vos côtés. En somme, l'obéissance découle de notre amour pour Jésus. Et notre amour pour lui découle de son amour pour nous. Parce que faut-il le rappeler, et ça a été dit, je crois, ce matin, il nous a aimés le premier. Jésus est mort à la croix pour nous. Il est mort à la croix alors que nous le méprisions, que nous ne faisions aucun cas de lui. Il a porté sur lui nos péchés, il a été condamné à notre place. Et la Bible nous dit que nous tous qui avons reçu le baptême du Christ, nous avons revêtu Christ. C'est Galates 3, 27 qui dit ça. Nous avons revêtu Christ. Nous sommes revêtus, nous pécheurs, de la justice du Christ. De telle sorte que lorsque Dieu pose son regard sur nous, il ne voit plus un pécheur condamné, il voit un pécheur gracié pour qui le sang de son Fils a été versé. Est-ce que nous croyons cela ? Parce que c'est là tout ce qui nous est demandé, d'accorder foi à ce que Jésus a fait pour nous, de recevoir par la foi ce cadeau qu'il nous fait. Et alors, nous pouvons à nouveau nous approcher de Dieu sans crainte parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience à la fois de l'abîme qui nous sépare, nous pécheurs, d'un Dieu qui est saint, et de ce que Jésus a fait pour nous, pour que nous puissions à nouveau nous approcher de Dieu malgré notre péché, eh bien, on tombe à genoux. Comment ne pas aimer un tel Sauveur ? Comment ne pas aimer un tel Seigneur ? Philippiens 2, versets 6 à 11 dit « Lui, c'est-à-dire Jésus, qui était vraiment divin, Il n'a pas cherché à faire prévaloir son rang d'égalité avec Dieu. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. D'autres traductions disent « il s'est dépouillé lui-même ». Il s'est fait serviteur, il est devenu homme, il est devenu comme les hommes, pardon, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est abaissé en obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Nous aimons Jésus parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Et il fait une promesse, nous l'avons lu, à ceux qu'il aime, il promet d'envoyer un autre défenseur pour qu'il soit avec nous pour toujours, l'Esprit de la vérité. Et cet Esprit, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Et c'est pour ça que cette jeune fille, au mariage, a bondi de son siège quand je lui ai parlé de relations personnelles avec Jésus. Évidemment, je lui parle de quelque chose qu'elle ne voit pas, de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Pour elle, je lui parle de quelque chose qui, simplement, n'existe pas. Mais à nous, Jésus nous dit, vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Alors je dis à nous, mais avant de nous le dire à nous, il le dit à ses disciples. Il le dit à ses disciples là, le soir de sa mort. Ils connaissent l'Esprit Saint parce qu'ils connaissent Jésus. Et Jésus leur annonce que dans peu de temps, lui, il ne sera plus auprès d'eux physiquement, il sera en eux. En eux. Ce qui, somme toute, est encore mieux. Il demeurera en eux par l'Esprit Saint. Et ils le reconnaîtront parce qu'ils l'aiment et qu'ils le connaissent. Finalement, au verset 21, Jésus dit « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Et parfois, on veut l'inverse. On voudrait que Jésus se manifeste à nous pour pouvoir l'aimer. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, apparemment. Ça marche dans l'autre sens. Donc, pars à la connaissance de Jésus en lisant sa parole, en lisant l'histoire de sa vie dans les évangiles. Apprends à l'aimer. Et alors, il se manifestera à toi. Et il le fait de manière très concrète. Encore faut-il le reconnaître. Or, il nous est bien dit que celui qui l'aime le reconnaît. Alors, je pourrais vous parler de vieilles gloires, comme quand les évangiles sont arrivés miraculeusement dans mes mains, il y a 24 ans, vraiment miraculeusement, je vous raconterai un jour si vous voulez, ou lorsque j'ai vu arriver Jésus une nuit, il y a 20 ans, alors que j'exigeais de lui qu'il se présente à moi. On a des trucs comme ça, des fois. On exige des choses de Dieu. Enfin bon, bref. Mais il fait grâce et parfois il exauce. Mais en guise de conclusion pour cette prédication, je voudrais plutôt vous parler de ces 10 derniers jours. Histoire de parler d'une relation fraîche. Vendredi de la semaine dernière, j'ai vu Jésus dans les yeux d'une sœur qui ne pouvait pas parler de lui sans pleurer d'émotion. Le soir de ce même jour, je l'ai vu dans la louange de l'église. Il était là. Il a ouvert nos bouches, il a ouvert nos cœurs. Des personnes sont venues confier leur fardeau aux équipiers de prière. J'ai vu Jésus là. Samedi, il y a 8 jours, je l'ai vu dans le témoignage de notre petite sœur Salomé, dans la paix qu'il lui a donnée une nuit alors qu'elle avait 12 ans, une paix qui a bouleversé sa vie et qui l'a amenée à s'engager à la suite du Christ. Ce même samedi, j'ai vu Jésus à l'œuvre dans la confession d'un frère qui venait se repentir du mal qu'il avait commis. Dimanche dernier, j'ai vu Jésus dans la communion fraternelle vécue avec une famille venue manger chez nous. Lundi, je l'ai vu dans le fardeau d'une sœur qu'on a porté ensemble. Mardi, je l'ai vu dans le discernement communautaire de la commission des ministères de notre fédération, où je siège. Mercredi, je l'ai vu dans le repos, parce que Jésus est maître du repos. Jeudi, Jésus m'accompagnait dans la préparation de cette prédication. Vendredi, il travaillait mon cœur et celui de 2 autres frères que j'ai rencontrés ce jour-là. Et hier, je l'ai vu ici. Il était là, il préparait le baptistère, il préparait la louange. parce que Jésus vit au milieu de son peuple, parce qu'il demeure en nous, dans son Esprit Saint. Je vous regarde et je vois Jésus, parce que nous sommes le corps du Christ. Alors ce matin, pour qui a des yeux, qui a des oreilles, il est encore là. La question, c'est ça finalement, c'est pas est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là, la question c'est est-ce que toi, tu es là pour le voir et pour l'entendre. Et si tu l'as entendu, si tu as entendu son appel ce matin, si tu le vois ce matin, à travers la louange, à travers le témoignage, à travers le baptême, à travers les frères et sœurs ici, si tu le vois et si tu l'entends, ne pars pas sans en avoir parlé à l'un de nos équipiers de prière. Et je demanderai à nos équipiers de prière de ne pas aller dans la salle du fond aujourd'hui, mais plutôt de se mettre par là, là, vers le devant, pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent venir à votre rencontre et que vous puissiez prier ensemble. Et maintenant, je vais prier. Seigneur, tu vis en nous par ton Esprit Saint. Et nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ. Seigneur, tu demeures au milieu de nous, tu vis au milieu de nous, non seulement en nous, en chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en toi, mais aussi là, au milieu de ton peuple, quand nous sommes réunis en Église. Seigneur, il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui ne t'ont jamais vu, jamais entendu, ou qui ont eu les yeux bouchés, les oreilles bouchées. Je te prie de déboucher les yeux, de déboucher les oreilles ce matin. Seigneur, qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent t'entendre, qu'ils puissent te rencontrer ici ce matin à travers ce qu'ils ont vu, entendu. Qu'ils puissent ne pas balayer d'un revers de main ce qu'ils ont pu toucher et connaître de toi ce matin, mais au contraire, que les barrières tombent et qu'ils puissent s'ouvrir à ta présence. Et c'est vrai, ta présence, elle n'est pas physique au sens où on pourrait l'entendre, mais elle est spirituelle et elle est tout aussi tangible, tout aussi réelle. Toi, tu apportes la paix, tu apportes l'amour, tu apaises les angoisses, tu modifies les relations, tu apportes le pardon. Seigneur, tout ça, toutes ces choses-là, Seigneur, viennent de toi. Dans ces lieux-là, on peut te voir. Tu apportes la guérison, tu changes les cœurs, tu transformes les consciences, tu nous modèles, tu nous façonnes chaque fois un peu plus à ton image. Seigneur, tout ça se voit, tout ça se perçoit, tout ça se ressent. Que ceux qui le voient, le perçoivent et le ressentent aujourd'hui puissent simplement t'accueillir dans leur vie, te reconnaître pour qui tu es, le Sauveur et le Seigneur. Amen. Alors je l'ai dit, nous croyons que cette parole est vivante, qu'elle a cette capacité de nous rejoindre, de nous transformer de l'intérieur, de nous amener à déjà une relation avec le Seigneur, une relation avec Dieu, une relation restaurée, de nous amener aussi à plus de liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, plus de liberté intérieure, parce que nous sommes délivrés du joug de l'ennemi. Nous croyons que cette parole, elle peut faire tout cela, parce qu'elle est parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est plus du tout une surprise, parce que je le fais à chaque fois, mais on a à cœur, systématiquement, d'offrir cette parole aux baptisés. Donc je vais te demander de t'approcher, voilà, simplement.